Daniel Mockel, qui s'inscrit dans une série de conférences qui porte sur les fonctions contemporaines du droit, le droit à tout faire. Et en réfléchissant à ces fonctions contemporaines, le lien entre droit et gouvernance s'est imposé, et s'est imposé également l'idée d'inviter Daniel Mockel à venir nous présenter un exposé là-dessus, qui question sur laquelle en fait il travaille déjà depuis un certain nombre d'années, qui a conduit à la production d'un article qui s'appelle « Gouverner sans le droit, point d'interrogation, mutation des normes et nouveaux modes de régulation » qui ont été publiés dans les cahiers de loi. Et aussi, à cause de la préparation actuelle d'un ouvrage sur la gouvernance publique et le droit, et puis pour lequel on attend l'édition dans les prochains
mois. Je passe le micro.
Alors, Denis Mockel est directeur du département de sciences juridiques de l'UQAM. Il travaille principalement sur les questions de droit administratif, de droit public. Et je dirais aussi de théorie du droit, de toute façon, à partir de ses considérations autour de la gouvernance. Je me rappelle de la première fois que j'ai entendu Denis Mockel, c'était ici. Je me rappelle de 1996. Je pense qu'un atelier dans le cadre d'un colloque qui avait été organisé par l'équipe Théorie et Émergence, qui avait fait un autre atelier, présenté un peu le thème de l'atelier. C'est la première fois, et puis je trouve ça vrai que c'est annulé d'en savoir, et là, c'est bien compris. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup.
Merci Pierre, merci pour l'invitation de l'équipe du CRDP. Peut-être avant de commencer, juste un rappel de mes travaux récents. Pierre signalait un article publié en 2002, exactement. Il y en a eu un deuxième en 2003, l'évincement du droit par l'invention de Saint-Louis. Et là, donc, un troisième qui aura pour titre gouvernance publique et droit, tout simplement. L'idée que j'ai, c'est un projet qui est peut-être ambitieux, c'est de ramasser les trois textes et d'en faire un ouvrage. Donc, c'est déjà en chantier. Alors, la thématique pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est la question du paradigme, gouvernance publique et droit, vers un nouveau paradigme. C'est la question sans cesse renouvelée que je ne la réinvente pas, mais je la remets, pour ainsi dire, continuellement à l'ordre du jour. C'est les rapports très particuliers du droit avec la question de l'État, là, du l'angle de la gouvernance. Alors, pour démarrer, deux constats à propos de la gouvernance. Le thème peut paraître d'une extrême banalité, et c'est ce qui fait le côté un peu difficile du sujet. Deux constats, c'est d'abord la généralisation du paradigme de la gouvernance. C'est au point de saturer le discours politique administratif contemporain avec la banalisation qu'on constate. Et qu'est-ce que la gouvernance? La gouvernance a quand même un sens bien précis parce qu'on en fait quelque chose qui déborde largement le contexte contemporain. On remonte dans le temps, on va parler de la gouvernance à l'époque antique ou à l'époque médiévale. Et pourtant, la chose est toute récente, elle remonte à 92, donc une période charnière sur le plan politique. Alors, il y a eu une invention de la gouvernance, et la gouvernance reflète donc des formules que vous connaissez bien, donc le décloisonnement du public qui est privé, la préférence pour des solutions consensuelles, et puis les formes horizontales d'interaction, c'est le thème de l'horizontalité qui revient souvent. Alors, pour un constat, on peut partir avec des constats, c'est plus prudent. Puis le deuxième qui m'a vraiment intéressé pour venir vous rencontrer, faire aborder cette question, c'est le glissement sémantique de bon gouvernement vers bonne gouvernance. Donc la gouvernance ne pourrait être que bonne, justement c'est good governance. Alors, évoquer le bon gouvernement, la bonne gouvernance, c'est évoquer quand même une vieille figure. Très figure sur le plan iconographique, c'est l'allégorie du bon gouvernement de Lorenzetti, la fresque d'Étatienne, donc qui remonte à 1338, elle était 53 ans. C'est pour moi d'ailleurs un souvenir d'un passage à Sienne, qui est quand même déjà bien loin dans le temps, et en 83. Et au fond de la salle, donc vous avez cette fresque où il y a essentiellement la figure du bien commun qui est à droite et la figure de la justice qui est à gauche. Il y a deux grandes fresques latérales, donc la cité république sous le gouvernement qui est à droite et les méfaits, donc, bien sûr, du mauvais gouvernement à gauche. Alors, pour celle du centre, l'idée très simple, ce serait en quelque sorte de convoquer, de reconvoquer Lorenzetti pour faire une fresque conforme aux préceptes de la bonne gouvernance, ce n'est pas du bon gouvernement. Le bon gouvernement, tel que Lorenzetti l'avait imaginé, surtout avec la figure du bien commun, il y a trois vertus théologales, et de chaque côté de la figure qui incarne le bien commun, il y a les vertus profanes. Du côté gauche, quand on regarde la figure, il y a trois vertus qui sont associées à l'idée de puissance publique, et à droite, il y a celles qui sont associées à l'idée de modération. Alors, si on voulait donc refaire la fresque, donc ça suppose d'identifier un commanditaire, et on clarifiera ces choses à la fin de l'exposé avec une permission. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à Lorenzetti? Il faudrait d'abord réintroduire la question du droit, parce que Lorenzetti a fait ça au XIVe siècle, et évidemment, il n'y a pas l'apport de capital de la philosophie politique des Lumières, donc le paradigme du droit n'est pas très présent dans la fresque du XIVe, ce sont surtout des vertus profanes, donc il faudrait tout l'apport du XVIIIe siècle, et donc convoquer Kant, Leibniz, Condorcet, Schumann, Montesquieu, bien d'autres. Alors, pour revenir donc dans un contexte plus contemporain, il faudrait éliminer les vertus théologales et les réinventer en fonction finalement de la thématique du nouveau management public. Les trois E donc, du nouveau management sont l'efficacité, l'économie et l'efficience. Alors, on peut imaginer efficacité, utilitarisme, planification. Et là, remplacer finalement les vertus latérales par des propriétés. Ce ne sont plus vraiment des vertus, mais ce sont simplement un peu des constats, toujours des constats en fonction de ce que représente la gouvernance contemporaine. Donc, dans un premier temps, la concurrence, bien sûr, des acteurs publics et privés, donc c'est là un thème important. Il y a l'élément également d'horizontalité, s'il y a une pluralité d'acteurs engagés dans la définition du bien commun, ou des objectifs publics, donc c'est l'horizontalité des rapports, ce n'est plus donc la dimension pyramidale. Enfin, c'est le marché, mais alors attention, le marché dans la perspective de l'État, de la gouvernance publique, de la gouvernance publique, c'est l'existence d'un marché de services publics avec les langues des consommateurs clients. Et c'est bel et bien un constat que je fais, vous n'avez qu'à fréquenter et couvrir à votre écran le site web donc, du gouvernement du Québec, reflète bien l'approche d'un gouvernement qui offre donc des services publics, donc c'est une réalité qui est bien contemporaine. Les vertus qui sont à droite maintenant, parce que peut-être les vertus qui sont à gauche, toujours un peu dans cette veine, la contractualisation bien sûr, donc l'importance accrue donc, du contrat ou de ce qui en tient au lieu, parce que la problématique d'éclatement du contrat, il y a également donc, la nouvelle gestion, donc, cette cinquième propriété, gestion bien sûr par objectif, par plan stratégique, c'est le nouveau management public que vous connaissez, puis enfin le rendement des indicateurs de performance. Là donc quelque chose qui ressemble un peu, qui pourrait ressembler à la gouvernance contemporaine. Il n'y a pas que la gouvernance comme terme, il y a la gouvernabilité. Ça, c'est peut-être tiré un peu plus de l'anglais, c'est plus contemporain. Il y a aussi la gouvernementalité, ça c'est Foucault, et il y a aussi la gouverne, donc avec les travaux de Gérard Bertrand, qui est en étant fonctionnement fin des années 90. Alors, ce que j'aimerais aborder avec vous, mais j'ai très peu de temps pour le faire, donc c'est ça le défi, c'est partir avec quand même des hypothèses. Est-ce qu'il y a vraiment donc, un paradigme nouveau, surtout pour la question du droit, ce serait une nouvelle configuration à la fois pour le droit public et le droit privé, ça dépasse très largement la question du droit administratif. Et surtout, existe-t-il un droit de la gouvernance, une sorte d'évolution, de mutation du droit contemporain, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut évaluer soit sous forme de juxtaposition, de substitution. C'est bien travaillé avec des hypothèses de recherche, donc un questionnement, une problématique. Alors, ce que je vous propose, c'est essentiellement un exposé en deux parties, je vais faire les choses plus simples qu'il soit. D'abord, voir si l'idée d'un nouveau paradigme peut tenir la route, et dans un deuxième temps, donc si l'hypothèse d'un droit de la gouvernance devient plausible comme en hypothèse, bien voir s'il n'y a pas des axes qui incarnent donc l'idée d'un droit de la gouvernance unique. En se disant, la gouvernance, il y a bien des formes de gouvernance, il peut y avoir bien sûr une gouvernance corporative, une gouvernance environnementale, que je vous propose ce soir, c'est un peu plus restreint, mais c'est avec quand même un acteur qui reste important dans la question de la gouvernance contemporaine. Ce que j'ai retenu, évidemment, surtout en fonction des travaux antérieurs, ces deux axes qui correspondent beaucoup à deux fonctions de l'État, si on veut faire des choses de façon un peu traditionnelle, l'axe gestion, donc pour surtout la fonction exécutive, la réorganisation interne de l'État, donc la restructuration de la question de l'État, puis enfin, c'est tout ce qui concerne l'aspect politique public, donc ça pourrait être un peu une fonction législative, l'élaboration des objectifs des politiques publiques, c'est le choix des outils, c'est le choix des outils de gouvernance, c'est le vocabulaire contemporain. Maintenant, je n'ai pas mis comme tel dans mon analyse la question des cours, des tribunaux, mais j'évoque quand même cette question dans mon texte, dans un long texte, la question de l'évaluation de la justice. Donc c'est plus diffus, plus discret comme tel, mais il y a des expériences qui datent, et là, enfin, il y a des publications qui commencent à sortir sur le sujet. Du côté nord-américain, on est peut-être plus pudique, plus sensible sur ces questions, mais outre-Atlantique, la pudeur est moins grande à l'égard des juges, et donc la question de justice, alors donc là, vraiment, les études en termes de rendement, d'évaluation, sont bien présentes. Alors, mais, je n'ai pas retenu cette dimension comme telle, j'aurais pu bien sûr faire quelque chose de beaucoup plus grand, surtout que j'ai traité déjà dans le passé la question des modes alternatifs. Alors, pour commencer, alors, un premier point, donc un premier morceau pour le paradigme, il faut que je fasse peut-être une petite mise en contexte, un petit rappel. Si je vous laisse entendre qu'un paradigme nouveau peut en place, peut surgir, ben, forcément, je n'ai pas le choix, je dois faire quand même un très bref rappel du modèle classique que vous connaissez bien. Et comme vous êtes tous à la fois professeurs et étudiants en droit, donc je peux passer très vite, mais quand même juste vous rappeler que le modèle classique de type Weberien, le modèle légal rationnel, est quand même le modèle prépondérant. Et ce modèle renvoie quand même pour le droit à des propriétés quand même où le droit reflète quand même des valeurs à la fois politiques, des éléments ou des propriétés formelles dans la question du droit qui renvoient donc à la question de la démocratie politique. Alors, ces éléments sont simples. C'est régularité, neutralité, égalité, transparence, prévisibilité, publicité, équité. Alors, donc, c'est des thèmes, évidemment, surtout transparence, publicité, qui sont importants, surtout dans le contexte politique actuel. Rappeler que bon, il y a des normes générales, abstraites et impersonnelles, et surtout qu'il y a des règles et des procédures transparentes et publiques qu'il est utile de les suivre. Bon, c'est quand même important, et également de c'est l'idée d'une fonction publique, qu'est-ce que ça suppose en termes de stabilité, de permanence. Alors ça, c'est pour ainsi dire, souvent on présente comme le vieux paradigme, mais surtout pour le disqualifier quand on lit la littérature contemporaine. Mes travaux, évidemment, m'ont conduit à une grande immersion dans la gestion des nouveaux managements publics. Donc là, c'est un changement assez radical, mais j'ai quand même beaucoup apprécié avec ce que ça présente comme danger quand on fait de la recherche, quand on passe dans un tout autre domaine. Évidemment, les pièges sont nombreux parce qu'on peut être coopté par la littérature savante qu'on consulte et on ne peut pas, comme ça, de façon ingénue, passer du droit donc à la gestion publique, au management, bon, et à la science politique. Mais, le thème se prête bien, la gouvernance, mais alors voilà le beau thème, puisque la gouvernance est d'abord un phénomène éminemment politique, et les juristes ont accusé quand même le coup avec un peu de retard, puisque la gouvernance va évidemment heurter ou bousculer plusieurs idées reçues quant à l'organisation de l'État et surtout quant à la structuration des organismes. Donc, pour comprendre un peu l'état des choses, ce que je pourrais simplement vous suggérer, c'est un peu le renversement du paradigme classique. Un paradigme traditionnel, le droit, donc, avait, pour ainsi dire, une sorte de prépondérance, une nette prépondérance. Et là, c'est davantage la gestion qui est prépondérante dans ce modèle, avec évidemment les attentes et les impératifs du nouveau management public. Mais est-ce qu'on peut réduire la gouvernance à la simple question du management? Là, c'est plus grand. Mais la question donc de la réorganisation des entreprises, des institutions de toute nature, publiques ou privées, est quand même un point central de cette gouvernance. Et ce que je pourrais vous suggérer, c'est, bon, pour en savoir davantage, c'est la lecture de l'un des gourous de la gouvernance, c'est Peters. Donc là, il y a un peu un détachement de l'axe du monde, parce que The Future of Governing a été publié donc, à Kansas City en 2009, et c'est déjà la deuxième édition. Alors, l'insistance mise sur justement l'efficacité, le rendement, les impératifs de gestion, c'est un peu le paradigme du marché, avec comme conséquence une sorte de prédétermination économique et gestionnaire dans l'analyse de la chose publique. C'est une analyse instrumentale du pouvoir. C'est le thème donc de la réinvention de l'État. Donc c'est le thème de l'administration Clinton-Gore dans les années 90, donc Reinventing Government, donc c'était 94. Et puis c'est l'obsession de l'efficacité des instruments. Alors, sur le plan donc de ses origines, je dirais, bon, la gouvernance a clairement une filiation du côté du management, de la gestion, et dans ses luttes d'influence entre disciplines, j'ai l'impression que c'est plus la science de la gestion que science éco qui a été déterminante dans cette question que l'on pourrait en débattre tout à l'heure. Il y a également, bien sûr, une question de philo politique. Bien sûr, on pourrait faire entrer ces questions dans la vaste problématique il y a plusieurs écoles, en tout cas du côté américain, en ce qui concerne l'école du choix rationnel, l'analyse économique du droit, donc bien sûr, Buchanan, donc ça remonte à 75. Mais en termes de philo-politique, les théoriciens de la gouvernance contemporaine font remonter, en tout cas, leurs choix, les orientations présentes à Machiavel, mais surtout à Hobbes. Et je dirais, ça c'est un choix personnel pour avoir lu également d'autres auteurs, je dirais il y a beaucoup Spinoza. Mais l'auteur qui revient le plus souvent, c'est simplement Hobbes à cause de la question du choix, des choix stratégiques, donc de l'efficacité dans la gestion. Et avec Hobbes, donc là il n'y a pas de confusion possible. Alors, ces deux axes que j'ai repris dans le texte, c'est un peu long, un peu laborieux, simplement pour voir comment, tant du côté gestion que du côté politique publique, la question du droit pouvait être traitée. Ce qui en ressort très brièvement, c'est que du côté gestion, du côté nouveau management public, il y a quand même un arrimage très net entre à la fois donc, les préceptes du nouveau management public, il y a des lois, il y a la loi sur l'administration publique de 2000 au Québec, il y a également toute la problématique très contemporaine des agences, il y a beaucoup d'agences en cours d'élaboration, il y en a une d'ailleurs qui était en chantier, c'était l'agence donc, pour les questions de santé, je reviendrai un peu plus loin. Donc, l'arrimage avec le droit est quand même visible pour les questions de gestion, bien qu'il y a quand même une certaine mise à distance du droit. Il y a également la dimension politique publique. Pour des politiques publiques, là, la littérature savante est, je dirais, presque unanime pour faire ce constat. C'est la mise à l'écart, bien sûr, du droit. C'est la logique, bien sûr, des outils de gouvernance. Là, la mise à distance, la distanciation est beaucoup plus grande. Le droit perd nettement cette centralité. Peut-être pas cette tendance à primauté, mais la centralité, tout simplement, dans l'élaboration, la formulation des politiques publiques. Même si la loi reste quand même quelque chose de très important dans l'univers contemporain, dans le monde contemporain. Ce qui m'amène également à faire un constat qui va dans le sens, oui, il y a un paradigme qui émerge quand même lentement, c'est simplement donc une recomposition dans le choix des outils. qui m'oblige d'ailleurs à aller encore plus loin et être plus avancé que le texte qui va sortir donc au début de 2006. Déjà, donc, j'ai élaboré un tableau que j'ai présenté il y a un mois l'Atlantique, donc une sorte de classement des outils de gouvernance en reprenant les deux grands axes traditionnels du droit, parce que j'avais donc un auditoire comme vous ce soir, un auditoire de juristes, et je ne voulais pas faire trop Sciences Po, donc je vais plus vers droit, et donc pour montrer qu'il y avait quand même un classement possible des outils de gouvernance en prenant les grandes catégories du droit. Si on prend donc la catégorie des normes abstraites, générales et impersonnelles, on peut transposer donc bien sûr multitudes de mécanismes de procédés et faire donc esquisser donc une typologie. Et dans cette typologie, peu importe qu'on prenne les normes abstraites, générales ou impersonnelles ou le modèle de l'acte individuel particularisé, on retrouve l'influence quand même du consensualisme, du contrat. On peut donc transposer ce qu'on appelle l'ambiance contractuelle ou les logiques contractuelles, tant sur le plan des normes générales que des décisions individuelles. Et là, il y a toute une panoplie de mesures possibles, donc qui passent bien sûr des codes de pratique, des codes de conduite, des codes volontaires, des chartes de l'environnement, des chartes usagées, des règlements négociés, des objectifs négociés, des normes de substitution. Enfin, tout ça relève donc de la négociation. Mais alors, avec évidemment des problèmes considérables pour les catégories du droit, parce qu'un règlement négocié sans contrat ou sans règlement, la question est au fond pour ça. Donc, la question a été soulevée en d'autres temps, d'autres lieux, et avec des réponses qui sont infiniment variables. Alors, je pourrais évidemment me lancer dans la typologie ce soir. Je vous laisse simplement entrevoir qu'il y a quelque chose qui est vraiment possible sur le plan du classement. D'ailleurs, je reprends ça quand j'aurai de nouveau le temps favorable. Et toujours dans cette mouvance du contrat, si on va du côté des actes individuels, et là, c'est assez étourdissant parce que là, on peut bien sûr recenser, parce que ça relève de la recension, des dérogations conditionnelles. La contractualisation du contrôle, des programmes volontaires, de la mise en conformité négociée, des ententes sectorielles, donc il y a des mesures volontaires, et puis il y a aussi des ententes sur la performance, des ententes négociées, des contrats environnementaux et enfin des partenariats. C'est un monde assez vaste et qui ruine, en tout cas, la clarté des catégories juridiques. Les juristes aiment beaucoup. En fait, pourquoi adhère-t-on souvent au droit? C'est à cause justement de l'élément de certitude que présente le droit. Alors que la gouvernance contemporaine, c'est le paradoxe qui m'intéresse beaucoup. C'est un peu l'art de gouverner avec des instruments dont le statut juridique est vraiment incertain, donc le statut juridique incertain, mais dont les effets ne sont souvent que trop certains. Les effets sont vraiment, l'impact est réel, du moins sur certaines catégories d'acteurs, encore qu'on puisse voir bien des différences. Il faut se garder de toute généralité. Dans toutes les catégories, il y a également la question des politiques publiques. Il suffit de penser à ce qui se passe au Canada du côté environnemental pour l'application de Kyoto, qu'on est vraiment dans l'actualité. Le Canada qui a élaboré un projet de Val d'Air en 2005, aller de l'avant pour contrer les changements climatiques et pour l'essentiel ce projet vert qui est l'engagement donc, qui a été poussé par Stéphane Dion, il y a essentiellement donc des mesures volontaires et puis je sais qu'il y a, j'ai beaucoup de juristes anglo-canadiens qui aiment en tout cas cette approche, mais cette approche évidemment sur le plan de l'efficacité, de l'effectivité, on peut rester bien sûr dubitatif. Et il y a également le programme Forêt 2020, vous voyez, donc je vous rappelle des choses bien concrètes pour la plantation d'arbres. Pourquoi? Parce que c'est simplement pour vous rappeler qu'il existe quand même des politiques publiques qui visent à réaliser des objectifs, donc à atteindre des résultats concrets, sans que la loi ou le règlement puisse être utilisé. Donc les objectifs publics, oui, des politiques publiques, il y en a. Le Québec s'est doté d'une politique nationale de l'eau en 2002, peut-être 2000, j'en sais rien. En tout cas, là, le programme Forêt 2020, c'est un programme fédéral de plantation d'arbres, encore là, c'est du 2005. Alors, donc, la question donc, des outils de gouvernance est une question qui est vaste, avec des procédés, des outils qui peuvent relever du droit ou qui n'en relèvent pas, mais peu importe, ça fait partie justement de cette logique très contemporaine du choix des outils de gouvernance. Alors c'est un peu donc ça, le changement de paradigme, c'est surtout l'apparition finalement de mécanismes, de procédés, de substitution, pourrait dire. Dire aussi mécanisme alternatif, mais enfin, c'est pas très très prudent. On a déjà évoqué la question des modes alternatifs et le droit positif peut toujours récupérer finalement ce qui paraissait alternatif au départ. Donc ça reste des choses qui sont très contemporaines avec tout ce que ça suppose comme difficulté sur le plan de l'analyse, puisque quand on regarde vraiment une situation de très près, quand on est trop contemporain, parfois donc le recul manque, c'est le problème. Alors, le changement de paradigme, oui, il est possible, donc on peut évoquer un changement de paradigme simplement à cause de ce retrait du droit au profit des impératifs liés donc à la gestion, à la formulation des politiques publiques et surtout à l'expansion considérable de mécanismes d'outils qui sont simplement dans la logique de substitution du droit, donc d'évincement du droit. Ça pose évidemment la question des doubles ou du double. J'ai tenté de décrire dans la deuxième contribution. Or, ce que j'aimerais donc aborder maintenant avec vous ce soir, c'est l'aspect le plus intéressant peut-être de la démarche. Existe-t-il donc un droit de la gouvernance publique? Donc, y a-t-il une rationalité juridique propre à la gouvernance contemporaine? Alors là encore, réponse prudente, oui, il y a des éléments, des pistes qui nous permettent d'avancer cette idée ou cette chose. Donc en fonction de quatre axes. Donc encore là, de façon prudente, il s'agit d'avancer sur la base de constats. Un premier axe de réflexion pour cette rationalité juridique, ce qui est frappant avec la logique des outils, des mécanismes, c'est la question de l'évaluation. Donc l'évaluation, qui est un thème central dans le droit contemporain, à cause bien sûr de l'influence du courant analyse économique du droit, donc c'est l'évaluation du droit, c'est l'évaluation de la justice, c'est l'évaluation des organismes publics avec le nouveau management public. Alors donc le droit est évalué, mais le droit sert aussi donc à évaluer beaucoup. Donc il y a un changement là en termes de paradigme qui rapproche le droit de choses qu'on trouve du côté des sciences, de la gestion en tout cas des sciences pures. Et c'est pas la première fois que le droit est, pour ainsi dire, sollicité par un paradigme de nature scientifique. On ne peut pas d'ailleurs déclasser le droit, parce que le droit, depuis longtemps, est confronté à des questions liées à l'évaluation. C'est même quelque chose de tout à fait traditionnel à certains égards pour les juristes. L'évaluation de la preuve, par exemple, en preuve civile. Le droit de l'environnement, il y a quand même des mécanismes d'évaluation, d'études d'impact qui ont été mis au point dans les années 70. Donc c'est quelque chose qui a été intégré par le droit. Mais là, c'est quand même le changement d'échelle au niveau de la question de l'évaluation. À quel point l'évaluation devient donc une préoccupation centrale, comme si le droit pouvait être l'outil parfait pour parvenir à une connaissance exacte, universelle, scientifique, en tout cas vérifiable des choses. Donc, et c'est pas la première fois que le droit est, pour ainsi dire, sollicité ou rapproché d'un paradigme scientifique. On peut remonter justement à Hobbes, qui ne partait pas pourtant du point de vue du droit, mais qui, dans sa deuxième édition du De Cive en 1647, avait évoqué donc l'horloge pour expliquer le fonctionnement de l'ordre juridique. Et donc l'idée d'un paradigme scientifique remonte quand même déjà à quelques siècles. Et il y a bien sûr, mais là on peut remonter dans le temps, évoquer bien sûr les travaux du premier Kelsen, et remonter même encore un peu plus loin que Kelsen, à la fin du 19e siècle, l'apparition donc de la rationalité assurantielle, le paradigme donc du risque, la gestion des risques, l'impact donc des sciences actuarielles, donc l'invention tout simplement des assurances qui permettent de créer ou de concevoir ou de rendre possible l'état-providence. Alors donc, des paradigmes de nature scientifique, c'est pas en soi une nouveauté absolue. Ce qui peut frapper, c'est simplement l'importance donc de la chose en droit contemporain. Alors, les autres axes, la dimension relationnelle. Donc, j'avais évoqué tout à l'heure la question des contrats, l'horizontalité, la pluralité des acteurs, les questions de partenariat. Donc, c'est très contemporain. Je peux vous renvoyer à l'ouvrage de Jean-Pierre Baudin, gouverné par contrat. Et Baudin, et tout comme d'ailleurs Peters, que j'ai signalé tout à l'heure, Peters vient du monde de la gestion. Baudin, donc, appartient à l'univers de la science politique, donc gouverné par contrat. Et là, le phénomène contractuel, la contractualisation, est souvent présenté comme un élément essentiel de la modernisation de l'action publique. Et justement, ce qu'on constate, ce qu'on remarque avec la formule des agences, c'est bien sûr le modèle du contrat qui fonctionne beaucoup à des fins d'entente cadre entre le ministère de rattachement et l'organisme. Les politiques publiques font appel beaucoup à des mécanismes qui s'apparentent, ou en tout cas qui sont dans la sphère du contrat, avec une problématique bien sûr de dilatation du contrat, alors d'éclatement du contrat. Alors la gouvernance, elle est associative, donc c'est la collaborative governance. Donc pourtant le contrat, c'est loin d'être une nouveauté en droit administratif, et c'est même un élément fondamental donc du droit. Et là, donc, avec ce phénomène d'hybridation, de dilution de la question du contrat, on passe sensiblement ou insensiblement du contrat vers les ententes, les engagements volontaires, les simples accords. Mes collègues d'Outre-Atlantique, ça c'était un moment drôle, ont signalé à d'autres collègues, je n'étais pas tout à fait seul, ont signalé donc à la délégation québécoise que le terme « entente » avait une connotation nettement péjorative. Alors que, ce qui est très drôle, du côté canadien-québécois, on a retrouvé le terme « entente » un peu partout dans les lois fédérales et québécoises. Alors que l'outre-Atlantique, les ententes, ben, c'est quasiment de l'ordre mafieux. Donc, si on s'entend, c'est vraiment pour des combines qui ne sont pas très claires. Alors bon, alors ça c'est l'élément drôle donc de ces échanges. Enfin, le troisième axe, c'est la dimension composite du droit actuel. C'est ce que j'aime le mieux. Bon, ce que j'aime le mieux, c'est le désordre, c'est le brouillage des catégories traditionnelles. Donc, c'est le brouillage au niveau de la distinction publique-privée, de la distinction entre les actes unilatéraux et bilatéraux, parce que là, on ne sait plus si un règlement est un contrat ou vice-versa. Et aussi, incertitude quant au lieu de production du droit, avec l'idée de forum public. Alors, le forum public, on va parler de ce thème dans quelques ouvrages, mais celui que j'ai quand même préféré, que je vous signale, même s'il est en italien, cet auteur est très connu, Sabino Cassese, donc, qui est un auteur de droit public, qui a publié en 2003 chez la Terza, en Italie, Lo Stasio Giuridico Globale, où Cassese aborde la question de l'arena publica, qui est le forum public. Pose clairement les questions très contemporaines de la logique du réseau, des formules alternatives, le dépassement du droit positif. Alors Cassese donc compare le jus positum à un droit nouveau, le jus inventum. C'est peut-être un peu drôle, mais enfin il arrive à la conclusion que l'ordre juridique est de plus en plus donc un ordre composite, ordinamenti compositi. Et pourquoi ? À cause de la prolifération de ces mécanismes qui forment l'objet de mes travaux, qu'on peut les qualifier de dispositifs de gouvernance ou de procédés de gouvernance. Et ces dispositifs sont évidemment fascinants parce que Là, on est en quelque sorte, on sort complètement des catégories traditionnelles du droit, et le questionnement devient intéressant, parce que là, ce questionnement permet d'amorcer une réflexion sur la possibilité d'une couverture néo-juridique. Parce que le droit traditionnel, si le droit offre des limites, est-ce qu'on peut encore apporter des solutions valables à l'évolution du droit actuel avec simplement les catégories conventionnelles ou les catégories habituelles? Alors, la question donc d'un néo-droit ou d'une couverture néo-juridique peut être posée, c'est juste pour... En tout cas, pour l'esquisser, ce thème n'a pas été abordé beaucoup. Je crois que je suis le seul à l'avoir même soulevé. Je renverrai quand même aux travaux de Jacques Chevalier. Jacques a fait les choses un peu différemment. Dans son ouvrage de 2003, État postmoderne, donc lecture fortement recommandée, et l'ouvrage remonte à 2003, mais déjà, il est fini à peine d'être réédité. Donc c'est un 2005 avec déjà des ajouts dans la collection de la société de la LGDJ. Alors donc sur cet ordre composite, j'aimerais évidemment dire davantage de choses, mais je ne vais pas faire les choses trop longues ce soir. Le dernier axe, qui forme d'ailleurs une partie de l'étude, c'est la distinction un peu manichéenne que tend à faire la gestion entre la politique et l'exécution. Le droit contemporain est marqué beaucoup par la création d'organismes publics différenciés, et ça c'est justement un des visages de la gouvernance publique. Le document essentiel, c'est le document de l'OCDE de 2002. Les autres visages de la gouvernance publique, mais c'est pas moi qui utilise ce terme, gouvernance publique, c'est l'OCDE. L'ouvrage donc a pour objet les agences, les autorités administratives et les établissements publics. Donc c'est en réalité les agences dites d'exécution, les agences de service, parce que là il faut faire bien des distinctions entre les agences, bien sûr, qui ont été celles de la première génération, et le mieux est de remonter vers le droit américain, c'est ce que j'ai fait dans mon texte. Il y a les agences de régulation, pour bien faire la distinction dans le contexte actuel avec les agences dites d'exécution, les agences de service. Là, le Canada apporte quand même quelque chose à cette évolution très contemporaine au niveau des organismes publics différenciés, puisque le Canada offre maintenant des exemples assez nombreux et de plus en plus retentissants d'agences. Bon, il y a quand même des modèles qui sont drôles, un peu inoffensifs, mais encore l'agence Star Canada qui remonte à 98, mais là tout récemment, elle avait été créée par décret en 2003, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada, et donc là maintenant, ça y est, donc on a avalisé, on l'a, pour ainsi dire, régularisé avec une loi qui date de 2005. Au Québec, il y a eu, bien sûr, là ça a été très médiatisé pour ceux qui ne connaissaient pas les questions des agences, l'Agence des partenariats public-privé en 2004, et là il y avait donc cette coïncidence entre partenariat et agence, donc qui est vraiment au cœur de la gouvernance publique contemporaine. Et là, donc, cette agence est, pour ainsi dire, mortelée au feuilleton. L'Agence de santé publique du Canada, c'est C75. Le projet de loi a été déposé le 16 novembre 2005, c'est-à-dire que le mois de novembre n'est pas tout à fait terminé. Donc, voilà. Donc, c'est un domaine, je pourrais vous en donner bien d'autres exemples, parce qu'il y a beaucoup d'agences du côté européen. Il y a les agences de l'Union européenne. Alors là, c'est pour un administrativiste, c'est un terrain de jeu immense. Il y en a au moins une vingtaine. Et là, le jeu, ça devient, donc le jeu, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment, il faut faire de la casuistique, est-ce que cette agence est simplement une agence de régulation, ou est-ce que c'est une agence d'exécution, ou est-ce que ça pourrait pas être un hybride, donc à la fois donc, une agence qui relève à la fois de la régulation et de l'exécution, parce que vous savez, dans la création d'organismes, je dois expliquer ça souvent aux étudiants, c'est un peu comme au niveau des voitures, on ne s'embarrasse pas trop de préjugés pour créer, inventer des choses en fonction des besoins, parce que c'est une approche qui est purement utilitaire, fonctionnelle des organismes, des problématiques en fonction des besoins. Alors, le constat qu'on peut faire, donc je vais quand même ne pas faire un exposé trop long. Est-ce qu'on peut vraiment évoquer un changement de paradigme? C'est ce que je vous ai proposé ce soir, gouvernance publique et droit vers un nouveau paradigme avec un point d'interrogation. je dirais, oui, il y a quelques auteurs qui sont encore peu nombreux, très peu nombreux, tant du côté américain, français, italien, britannique, qui répondent par l'affirmative, donc pour une petite minorité. Pourquoi répondre par l'affirmative? Parce que la gouvernance, de toute façon, est un terme sans équivoque. Elle a beau pour des juristes paraître floue, parce qu'elle ne vient pas de l'univers du droit, c'est un phénomène d'abord et avant tout politique, et qui heurte les catégories du droit. Le terme est pourtant sans équivoque. Gouvernance, c'est la priorité qui est accordée donc aux méthodes et aux mécanismes de transformation de l'action publique. Donc si la priorité est accordée à, on peut peut-être dire aux sciences du gouvernement, mais pas à l'art du gouvernement, la gouvernance donc met résolument l'accent sur les mécanismes, les procédés, peut-être au détriment souvent de l'approche plus démocratique ou plus conviviale qu'on présente souvent à propos des questions de gouvernance. Parce que la gouvernance a été présentée souvent pour la légitimer comme étant quelque chose de plus satisfaisant en termes de démocratie politique. Ce serait un projet plus convivial, parce que là, l'horizontalité permet davantage donc le réseautage et l'échange entre acteurs publics et privés. Il y a beaucoup d'acteurs sur le plan public, de nombreux acteurs privés, et le projet peut paraître justement plus intéressant, plus convivial que la formule traditionnelle de la démocratie politique via les mécanismes de représentation. Alors donc, c'est un phénomène évidemment qui bouscule le droit, parce que la gouvernance est là dans un rapport d'extériorité au droit. Puis Jacques Chevalier a posé ouvertement la question en 2005, dans les débats Jean Sélec. C'est le seul texte qui me précède, là c'est celui donc... qui a été publié dans les mélanges Anselec, donc ce printemps 2005, en mai. Et en mai-juin, j'avais déjà terminé mon texte. Alors donc, c'était très, très beau de comparer les deux, et pour aboutir sensiblement à des conclusions similaires, donc par rapport à la question du droit. Alors, que conclure? C'est une conclusion qui va peut-être vous paraître déroutante, mais la gouvernance entretient un rapport très ambigu avec le droit. Ça peut être un triple rapport. Il y a quand même un changement de paradigme. Mais ce changement de paradigme montre quand même que la gouvernance, sous bien des rapports, procède d'un ancrage important dans le droit. Parce qu'il y a quand même du droit légiféré traditionnel, ne serait-ce que pour asseoir la nouvelle gestion publique, créer des agences, donc la technique du contrat également. Donc le droit dans ses dimensions traditionnelles est mis à contribution. Mais avec ce paradoxe du retrait du droit, ou cette problématique d'évincement du droit, donc où les choix stratégiques sont dégagés en partie, ou loin en tout cas des contingences du droit. C'est donc la dynamique des formules alternatives, c'est l'hybridation. J'aime beaucoup l'ouvrage de deux collègues britanniques, mais ce ne sont pas des juristes, ce sont, vous voyez, donc je n'ai pas de bonne lecture, je fréquente surtout des auteurs qui sont en sciences politiques. L'ouvrage de Christopher Parrott, Colin Talbot, l'ouvrage est en 2004 chez Routledge, c'est Unbundled Government. Donc c'est un beau titre qui donne bien une idée des tendances actuelles, parce que unbundled, je prononce peut-être un peu mal, mais c'est en tout cas, c'est le gouvernement délié. Donc bundled, donc là c'est lié, c'est un peu comme ligoté, mais alors là c'est le gouvernement justement qui est délié par rapport aux exigences du droit. Et ce qui intéresse mes collègues britanniques, là, c'est la question des agences. À quel point donc les agences représentent une formule sur le plan organisationnel qui permet justement de gérer autrement, de gouverner autrement, avec beaucoup moins de contraintes juridiques. Donc, c'est comme une mise à l'écart donc des contraintes du droit, que ce soit sur le plan gestion du personnel, marché d'approvisionnement, contrat, convention collective, enfin, plus tard. Donc, un nouveau type d'organisme public qui prend de plus en plus d'ampleur. Et quand on met ces deux éléments bout à bout, droit traditionnel, retrait du droit, mais il y a toujours quand même une couverne, je recueille ce terme à dessein, une couverne classique traditionnelle qui reste en place, puisque les choix stratégiques qui sont faits par les acteurs publics sont encore largement fondés dans bien des domaines sur les outils traditionnels que vous connaissez parfaitement. Tu n'as pas besoin de les exposer. Donc, les lois, règlements, permis, subventions, contrats. Donc, il y a une logique de continuité également de ce côté. Alors, donc, ce qui me pousse à proposer finalement comme conclusion ultime la coexistence de deux paradigmes. Oui, y a-t-il un nouveau paradigme ? Oui, on peut parler d'un droit de la gouvernance publique avec des précautions, donc on ira très, très prudemment. Mais c'est un paradigme qui coexiste avec le paradigme traditionnel. Donc il y a une gouvernance publique qui est un peu finalement en contrepoint de l'administration publique classique. Mais cette gouvernance publique projette quand même une image de rupture, car le droit n'est plus l'élément central de l'action publique. Alors, ce qui nous oblige à revenir à ce que je vous proposais au départ, donc la fresque de Lorenzetti, et on dit, bon, on refait cette fresque, et au fond, qui pourrait être le commanditaire ? Si le commanditaire est à peu près ce que sont les gouvernements actuels, donc la gouvernance qui va être élaborée dans la fresque, il y a de fortes chances d'avoir donc un tableau qui est très composé, avec bien sûr des éléments de droit public et de droit privé traditionnels, donc on a quand même des repères, avec des éléments qui relèvent d'une gouvernance néolibérale. Je ne vais pas aborder ce thème ce soir, mais si vous voulez me poser des questions là-dessus, je peux facilement répondre. Donc, une gouvernance qui serait davantage donc, marquée par les conceptions, les solutions néolibérales. Je vous signale l'ouvrage de Valentin qui remonte à 2002, « Les conceptions néolibérales du droit », c'est paru chez Economica. Et donc cette gouvernance néolibérale que Lorenzetti devrait concilier avec une autre possibilité, parce que là, tout dépend de la nature de la commande, alors qui au fond serait le commanditaire ? Si le commanditaire est un acteur public, donc un gouvernement, il y a peut-être des chances que la gouvernance soit teintée d'éléments traditionnels et d'éléments qui relèvent de la logique, en tout cas de la rhétorique néolibérale. Si par contre le choix qui est privilégié, c'est davantage donc un tableau réaliste, donc on demanderait à Lorenzetti de faire le tableau le plus réaliste qu'il soit, eh bien là, la fresque, forcément, évoluerait beaucoup. Et Lorenzetti était déjà remarquable, il a déjà dépassé Giotto dans la représentation de la réalité du réel, donc au XIVe siècle. Là, Lorenzetti serait obligé de faire un bond assez prodigieux, et là, son art aurait probablement tendance à se rapprocher de compositions iconographiques qui sont très contemporaines, parce que là, ce serait une fresque forcément très stylisée, très chargée, pour représenter une réalité où le droit est de plus en plus complété par des dispositifs qui sont des dispositifs autres, des dispositifs de rechange, des dispositifs hybrides, en tout cas des dispositifs qui sont peut-être souvent que le double, la doublure du droit. Donc, qui pourrait être le commanditaire de cette fresque ? Alors donc, il fallait quand même que je clarifie cette question, parce que j'ai quand même réalisé moi-même, après la première écriture de mon texte, que bon, je proposais donc une revue, une correction de la fresque de Lorenzetti, mais sans trop préciser qui serait le commanditaire. Alors, de crainte, de peur d'être associé donc, aux thèses néolibérales, alors donc là, j'ai corrigé un peu le tir, donc, pour montrer qu'en toute liste, il faudra simplement clarifier la question de la commande. Et quand on est chercheur, on a au moins donc, la chance de ne pas nécessairement être un acteur. Mais encore, c'est ça un peu mon infortune, alors je vais voir. Un peu d'être compétitant, je suis également gestionnaire. Donc, dans mes fonctions actuelles, donc alors je suis à la fois le sujet et un peu l'objet de mes travaux, ce qui n'est pas très très intéressant, parce que je dois travailler avec des indicateurs de performance, des histoires de rendement, des objectifs, des plans, d'application stratégique, tout comme votre moyenne. Alors, donc, voilà. Merci. Alors, donc, voilà, c'est ce qui fait l'objet donc, du texte qui paraîtra au début de 2006. Il est vraiment long, il est encore plus long que les autres, je crois. Donc, il fait 62 pages à interline 5, avec 179 de votre page. Je vous en ai livré juste un petit aperçu. Et j'espère pouvoir continuer dans ces travaux. Alors, on n'échappe pas à la trilogie, finalement, parce que au départ, je ne voulais pas faire trois textes.
Merci beaucoup, Daniel Mancal. Évidemment, la question, ce serait de savoir à qui profite la fresque. Et peut-être qu'on pourrait savoir vraiment qui peut la commander.
Oui. dans le cas apporter cette question, je vais vous donner une réponse réaliste à une question ici claire. La commande pour Sienne venait vraiment de la République siennoise. Donc on a mis délibérément l'accent sur des vertus civiques à l'époque. C'était proprement révolutionnaire pour le 14e siècle. Là, donc, si on refait la fresque, le commanditaire devrait forcément être un acteur public et non pas donc, un chercheur. Simplement. Donc, alors, il faudrait demander donc, aux autorités des fédérales, des ministères, en tout cas, ce serait peut-être même préférable que ce soit ces autorités-là, malgré tout ce que vous pouvez en penser, plutôt que l'Italie actuelle, donc, compte tenu de ce que peut représenter l'Italie de Silvio Berlusconi. Clarifier la nature du commanditaire n'est pas quand même une messe à faire.
Ça pourrait être un consortium d'agence.
Oui, tout à fait.
Alors, écoutez, la parole est au public. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser, des commentaires?
Je vous demande en général de prendre le micro.
Merci, Jean-Pierre. Avec ce développement des agences que vous avez étudiées, est-ce que ce nouveau paradigme n'aboutit pas finalement à un contrôle social beaucoup plus efficace et plus dangereux, en un sens, du gouvernant sur les gouvernés? Parce que le retrait du droit de temps en temps par an, on peut croire que c'est un retrait du contrôle social, mais en réalité, les agences exercent un contrôle social au nom du gouvernement, que ce soit l'État ou tout autre, tellement plus efficace que le droit soit. Si bien que, sous les apparences, nous sommes plus contrôlés. C'est un État plus contrôlant que dans lequel nous sommes. C'est ma première question. J'ai une deuxième question qui est plus locale. Il y a un certain nombre d'années, les gouvernements du Québec ont beaucoup utilisé comme mécanisme de gouvernance ce qui s'appelait les livres verts et les livres blancs, qui sont d'origine britannique. Hein, le livre vert annonçant un projet de politique pour fin de consultation, le livre blanc étant plutôt une prise de position du gouvernement en mon sens. Et ces documents avaient un côté non juridique, en un sens, mais ils étaient en même temps très juridiques, car souvent, on annonçait dans cela du droit, des modifications au droit, ou un droit nouveau. Et c'était une forme de gouvernance qui se voulait plus participative et plus transparente. Ce que j'observe, c'est que il y a un abandon de ce mécanisme de gouvernance au Québec depuis plusieurs années. On l'a abandonné. Au profit, au fond, d'une demande de gouvernance plus verticale qu'horizontale, parce qu'il y avait une certaine horizontalité dans ces modes de gouvernance, dans ces mécanismes de gouvernance, des livres verts et blancs. Et là, il y a donc, je dirais, un déficit de transparence et d'horizontalité dans ce nouveau paradigme de gouvernance pour le Québec. Voilà, deux questions.
Oui, bien sûr, les deux questions sont très pertinentes. Merci de les soulever. la question du contrôle. Une bonne partie de la gouvernance contemporaine, du moins, c'est ses ressorts à la fois politiques, gestionnaires, partent évidemment du constat de l'ineffectivité. Je sais que le thème de l'effectivité vous a beaucoup intéressé. Et alors, c'est en fonction de constats, justement, d'inefficacité, d'ineffectivité du droit et également du modèle qui le sous-tend, parce que c'est bien sûr évoquer les instruments classiques du droit, loi, règlement, mais aussi d'autres choses, ils ont peut-être perdu subvention. Et c'est également le modèle traditionnel d'administration publique. Alors, c'est les deux qui sont mis simultanément en cause, ce modèle libéral et type légal rationnel. Et c'est à partir d'un constat d'inefficacité qu'on veut davantage d'efficacité, et surtout de l'effectivité, et on veut soit beaucoup plus efficace pour la réalisation des objectifs publics. Alors évidemment, au nom de l'efficacité, est-ce qu'on n'est pas donc en train de balancer certains éléments traditionnels, donc en tout cas ce que le vieux paradigme qui est souvent vilipendé, c'est presque devenu un rituel dans les ouvrages de management public, on commence par discréditer, on exécute en quelque sorte le vieux modèle d'administration publique, parce qu'il est désuet, et donc pour passer donc au modèle très contemporain du nouveau management public, et là enfin donc on a des outils pour évaluer le rendement, l'atteinte d'objectifs précis, tangibles, clairement identifiés. Je dirais peut-être que en tout cas, je ne vais pas aborder cette question dans mon exposé, je n'ai pas vraiment le temps, mais les origines de la gouvernance contemporaine, ces origines à la fois politiques, pourquoi cette action gestionnaire ? J'ai signalé la date de 92, c'était donc la parution de mon premier grand livre sur la gouvernance globale. C'est quand même un moment de rupture par rapport à la question de la crise des finances publiques. C'est la fin des années 80, c'est la crise de l'État-providence. Et c'est le fait simplement que les États occidentaux, dans une logique de mondialisation, dans une logique globalisante, soit en perte de rendement, en perte de recettes, en perte en tout cas de taux de croissance, et l'accent va être mis de plus en plus sur le resserrement de l'appareil à des fins de performance, d'efficacité, et surtout pour résoudre des problèmes de plus en plus délicats et complexes publique. Donc la logique du partenariat bien n'est pas, en tout cas, n'est pas proche du Canada non plus, elle est déjà bien ancrée ailleurs, ne serait-ce qu'en France, elle est d'ailleurs mieux encadrée au Atlantique que vous ici. Donc cette logique de contrôle social, en fait, de contrôle politique, elle est bien réelle, mais procède finalement d'attente, en tout cas, de visée qui... là, c'est peut-être difficile d'évaluer ces attentes, mais ce sont des attentes qui sont souvent de ce qu'on appelle la pensée comptable, c'est la pensée minimaliste de la rentabilité ou de l'atteinte des objectifs. Mais je pourrais continuer longtemps sur cette pente et reprendre plusieurs exemples, parce que la gouvernance publique pose des questions très contemporaines, des questions qui sont souvent insolubles. Il suffit d'évoquer les problèmes de santé publique au Canada. Il y a des tas de problèmes qu'on peut évoquer en termes d'objectifs publics ou de politique publique. Il est évident que les acteurs publics ou les États occidentaux n'ont pas les moyens financiers de parvenir à régler certaines questions, certains problèmes. Alors donc, la question, je ne vais pas paraître un peu politicien ce soir, la question du contrôle social va varier infiniment en fonction des domaines ou des champs d'intervention. Parce que la question du contrôle social, on va peut-être constater que dans le domaine environnemental, justement, ce qui manque cruellement, c'est peut-être un resserrement, justement, des mécanismes et des procédés. Alors que dans d'autres champs, justement, si on va vers la sécurité, justement, des frontières ou la sécurité intérieure, une agence justement de sécurité pour les frontières, pour sécuriser le contrôle migratoire, eh bien, c'est là, là, c'est un maître serment. Ça va tout à fait dans le sens que vous indiquez. Alors, il n'y a pas de réponse globale à la question de l'effectivité, mais c'est un thème qui revient constamment. C'est comme quelque chose qui a troublé, en tout cas, le mouvement vient vraiment de sciences de la gestion, vient du management, vient également de Sciences Po. Et c'est ce thème récurrent de l'ineffectivité, de l'inefficacité, toujours être plus efficace, et le droit, donc, ne permet pas, ou ne permettait pas, du moins, n'est pas encore assez efficient pour répondre aux attentes des gestionnaires. Donc, il faut s'assurer que des modèles alternatifs soient proposés, que les agences, justement, aient été créées, en tout cas, créées, plusieurs d'entre elles, sans même qu'il y ait parfois donc, un outil juridique. Le décret est venu parfois, dans certains cas, mais là c'est la tendance canadienne en tout cas, c'est de conférer aux agences une personnalité juridique, d'en faire des organismes publics, donc différenciés, alors que dans d'autres pays, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande, le cas du modèle britannique, les agences n'ont pas de personnalité morale, c'est le cas également de la Suède. Donc là, on sent que c'est vraiment l'exécutif, c'est un resserrement justement de l'exécutif dans ce cas. Alors que le modèle décentré permet justement de créer de nouveaux relais de contrôle avec, au fond, mais qu'est-ce qu'il y a dans le modèle des agences? C'est tout simplement une transposition, en quelque sorte, de la flexibilité dans le management privé, c'est la flexibilité du management tout court, en quelque sorte libérés de plusieurs contraintes. Et donc les agences sont évidemment infiniment plus redoutables à certains égards que sont les organismes publics traditionnels. Mais redoutables, est-ce que c'est pour des fins d'intérêt général, d'intérêt public, comme des resserrements, des contrôles, la gestion de la studio.
Les livres verts et les
livres. Ah, les livres verts, oui, les livres blancs. La deuxième question, merci de me rappeler cet élément. C'est tout à fait juste. On a abandonné cette forme qui est au fond conviviale, qui était déjà très, très horizontale, en quelque sorte, de consultation. On a quand même toujours des commissions qui relèvent, en tout cas, des chambres, des assemblées élues. Mais on abandonne, en quelque sorte, davantage, je dirais, l'élaboration de projets collectifs. Et la gouvernance contemporaine est surtout une gouvernance qui est très fragmentée, forcément, de souligner cette dimension, puisqu'il suffit de rassembler par domaine, par champ, donc des acteurs, à la fois publics et privés, pour définir des objectifs migratoires. Alors, il faut dire que ça, c'est très controversé, parce que là, c'est reposer la question de la légitimité. Et je vous invite, donc, il y a un ouvrage que j'aurais pu vous signaler ce soir, qui est un ouvrage qui a été publié par par mes collègues anglo-canadiens, qui est de l'ouvrage donc, qui est paru chez McGill Queen's University Press, qui est en 2005, là, c'est Designing a Government, donc, où la, plusieurs questions justement liées à la légitimité, à la question du droit sont posées, parce que jusqu'ici, ces questions avaient été plus ou moins évincées de la thématique de la gouvernance. On consulte des ouvrages de 2002-2003 sur la gouvernance, The Tools of Government, ou en tout cas, beaucoup de la littérature anglo-américaine. La question du droit périphérique quasiment absente, parce que c'est un élément central de l'action publique, désormais.
Bien, merci M. Winkler pour cette conférence très, très stimulante. J'étudie avec Pierre Moreau ici en Côte-du-Tête et il y a 4 ans qu'il déménage en France. Si j'ai bien compris votre petite conférence, malgré le fait que je commence à tomber malade avec le petit Moreau, mais si j'ai bien compris votre conférence, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant que l'on ne retrouve pas, par exemple, chez Jacques Chevalier, Charles Albert Morand, qui a publié l'univers des petits publics, ou alors encore chez André-Jean Arnaud, parce que son deuxième tome de la critique dans les revues juridiques, je crois que c'est ça le titre. Ces auteurs-là, je pense, mais vous allez me dire si je pense bien, ces auteurs-là, je pense qu'ils ont plutôt pour acquis que cet aspect de la gouvernance publique est une évolution, une mutation du droit. C'est du droit, finalement. Et que c'est un nouvel aspect du droit, c'est ça. Ça entraîne un état peut-être postmoderne pour certains, ou un droit réflexif pour d'autres, ou postmoderne. Alors que, si j'ai bien écouté votre examen, vous mettez plutôt ça en question. Vous dites alors, est-ce que c'est du droit ? C'est pas du droit traditionnel, on est d'accord, mais est-ce que c'est toujours du droit, si je vous ai bien compris ? Et vous, d'ailleurs, le titre de votre article, peut-être pas de la conférence, propose d'ailleurs gouvernance sans droit ou droit. Alors j'aurais aimé avoir un petit peu votre situation par rapport à ces autres auteurs qui voient peut-être plus les choses d'une manière évolutionniste et qui le prennent pour acquis peut-être, alors que vous, c'est plus une hypothèse.
La question m'a été posée en termes plus directs à Nanterre en 2002, donc avec le groupe de théorie du droit. Si je voulais vous donner une réponse qui était très, au fond, bien traditionnelle, est-ce que c'est vraiment du droit ? Oui, il y a toujours quand même un élément de choix dès le départ. Je vous ferai une réponse à la Michel Trotter. Le simple fait de choisir ou de ne pas choisir, justement, l'élément juridique ou l'outil juridique renvoie quand même à la liberté du décideur. Et évidemment, il y a toujours une dimension éminemment juridique à déterminer ce qui est juridique ou ce qui ne l'est pas. C'est la question de la juridicité. Si dès le départ, l'auteur de l'acte décide « oui, je vais choisir finalement un outil parce que je n'ai pas d'autres termes, j'utilise un langage qui est très contemporain, donc des outils, ce sont des mécanismes, des procédés. Si j'opte pour un permis ou pour un contrat ou pour un règlement, c'est quand même un choix où je vais vers le droit. Si je choisis autre chose, donc c'est la logique justement c'est très anglo-américain, c'est la logique donc du choix des outils de gouvernance. Je peux choisir sans aucune considération pour la question du droit. Donc il y a une mise à l'écart donc assez radicale du droit. Où là, donc, c'est un peu, finalement, de façon très, très éclectique, la possibilité de choisir entre des outils infiniment variés, parce qu'au fond, pour certains d'entre eux, si on entre, par exemple, si on propose comme outil de gouvernance le choix entre des assurances, des dégrèvements fiscaux, des dérogations négociées, des allègements, enfin des avantages, la frontière devient souvent très ténue entre ce qui relève du droit, ce qui ne l'est pas, et dans certains cas, vous pouvez dire, oui, là, c'est vraiment pas, c'est pas du droit. Ne serait-ce que, par exemple, d'opter pour l'aspect résolument politique publique, donc au détriment de la dimension proprement juridique des outils. Mais collègues français considèrent plutôt que c'est du droit, au fond que c'est évolutionniste. Je ne pose pas, même si j'ai peut-être posé la question en termes plus radicaux, gouverner sans le droit, je ne propose pas en tout cas l'idée d'une mutation du droit. Il y a quand même une évolution. Mais avec donc des paradigmes donc, qui sont concurrents. La concurrence, la coexistence des paradigmes devient de plus en plus forte.
Oui,
c'est
une question
que je me voulais poser initialement sur votre exposé par rapport à la réponse que vous venez de donner donc, sur le financement supplémentaire est encore plus vrai. Encore peut-être plus pertinente, cette tendance-là a peut-être, je dirais peut-être décentralisé ou déléguer des pouvoirs à des agences ou même abandonner certains pouvoirs à des agences, plus cette préoccupation-là, nécessairement toujours d'effectivité, etc., est-ce que ça fait en sorte justement de pouvoir, ou est-ce que c'est détraité de savoir quel serait l'impact de cette nouvelle gouvernance-là, par exemple, sur les questions de démocratie, quand on parle de délégation pour des choses, et également sur les questions d'égalité, parce que souvent les agences ou les contrats particuliers qui peuvent être pris avec des corporations particulières, sur une base plus d'entente, contractuelle, etc., ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement le même traitement pour tous, ou même pour ça apparaît pour tous. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que cette question-là, justement, au niveau de l'égalité et de la démocratie, se pose avec cette nouvelle forme de gouvernement?
Oui, je peux vous rassurer immédiatement, il y a une littérature considérable du côté Sciences Po où la question de la légitimité de la démocratie est soulevée en des termes souvent très polémiques, suivant les auteurs, les courants. Côté droit, je salue la contribution de Pierre Issaïs dans l'ouvrage de 2005 qui pose la question de la légitimité. Pierre a tenté de la fonder de nouveau, mais en fonction de là, il épouse en quelque sorte vraiment la logique contemporaine de la gouvernance et de la légitimité. Il faut la refonder en quelque sorte, non pas suivant le modèle traditionnel offert par le droit, mais en fonction de la légitimité de chacun des acteurs. Et ça, donc, ça nous renvoie peut-être à une forme plus proche, en tout cas, des attentes ou des tendances actuelles ou contemporaines. Donc, la légitimité, à défaut de pouvoir la définir de manière verticale, hiérarchisée, en toute transparence, cette légitimité serait fonction uniquement de l'apport, de la contribution, de l'expertise de chacun des acteurs. Et Pierre prend bien soin d'en identifier au moins 6 ou 7 qui peuvent contribuer donc, à la définition, à l'élaboration des politiques publiques. Moi, je pars peut-être d'une autre perspective. Ce qui m'intéresse, c'est justement davantage, j'ai peut-être subi de mauvaises influences, mais c'est justement c'est la mise à l'écart du droit traditionnel, donc sa dévalorisation, en quelque sorte, c'est comme une monnaie qui est dévaluée, donc le droit n'est plus ce qu'il était comme valeur ou comme outil. Et donc, c'est vraiment donc, la poussée tous azimuts de formules qui relèvent à la fois donc, des organisations, c'est là que vous avez bien compris, les agences, puis le nouveau management public, le procédé de gestion, mais c'est aussi les procédés même de l'action publique. Ce sont des mécanismes, et ces mécanismes peuvent être à la fois donc, des mécanismes donc, qui relèvent des normes abstraites, générales et impersonnelles, donc des mécanismes donc, qui sont les substituts de la loi, ou bien des mécanismes qui sont des substituts donc des décisions particularisées auxquelles on est habitué en droit public notamment. Mais les privatifs sont plus aussi concernés, parce que là, si c'est une problématique d'éclatement de toutes les catégories juridiques, il n'y a plus rien qui tient là. Un contrat reste quand même un contrat, peu importe qu'on soit en public ou en privé. Donc s'il faut faire éclater justement les catégories du droit, elles éclatent simultanément dans les côtés du public.
Jean-Martin Lapierre, étudiant au doctorat en droit. Vous semblez situer l'émergence, la cause de l'émergence, cette évolution de la gouvernance dans le développement de rationalité nouvelle liée à la gestion. Mais est-ce qu'on peut relier ça à un mouvement social? Est-ce que, par exemple, le mouvement de la déréglementation a un lien avec cette évolution-là? Et la déréglementation, le mouvement de la déréglementation me semble non seulement lié à un constat de l'inefficience du droit, mais également à un constat de l'envahissement du droit.
Alors, je peux vous répondre rapidement. Je peux vous répondre rapidement, c'est que la déréglementation, c'était une réponse qui était celle des années 80, donc c'est la réponse des années Reagan, donc du thatcherisme. Et avec les années 90, c'est une critique justement radicale de la déréglementation. Et la gouvernance est justement une nouvelle façon de gouverner. C'est proposé justement comme la solution de rechange, la panacée parfaite, pour offrir donc une toute autre réponse à la question de la formulation des politiques publiques et donc à l'utilisation des ressources. Donc, alors attention avant de dire privatisation, parce que là, la gouvernance, du moins officiellement, a pour vecteur de légitimation l'association donc, des acteurs publics et privés donc, dans la définition des objectifs. Donc, privatisation, en tout cas, la chose reste très controversée. Je sais que j'ai des collègues, donc, ils sont surtout à l'UQAM, qui contestent beaucoup la gouvernance contemporaine. Et il y a donc une critique souvent très sévère de ces thèmes. Je pourrais d'ailleurs m'expliquer devant mes collègues en février ou en mars, hein, je suis convaincu. Alors, ça va sans doute être beaucoup plus sportif que ce soir.
Allez, peut-être une dernière question.
Ah, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et surtout les commentaires de Daniel sur l'émergence. Concentration aujourd'hui, ces nouveaux paradigmes, efficacité, efficience, économie, voire peu, comme on a parlé tout à l'heure. Et en même temps, je me dis, mais s'agit-il vraiment de choses si nouvelles que ça? On parle de nouveaux concepts, de nouvelles rationalités. On a évoqué la gouvernementalité de Foucault. Or, celui-ci démontre bien qu'à un moment donné, l'art de gouverner, l'art du gouvernement, véritablement né, notamment avec la découverte de limitations externes, et justement l'émergence du discours économique en politique au XVIIe. Donc on avait ici à ce moment-là un moyen de mesurer l'action du gouvernement par l'action économique. Donc est-ce que cette action que je prends, cette politique que j'adopte, aura une incidence sur le prix du blé, comment les marchandises, etc. Donc, quelque chose qui finalement existe depuis un certain temps. Et alors, on se demande si aujourd'hui, ces nouveaux paramètres sont si nouveaux, ou si c'est finalement quasiment une répétition avec un discours un peu plus sophistiqué dans la science de la gestion des mêmes arts du gouvernement qui existent depuis longtemps.
Tous les auteurs ou presque réfèrent à Foucault à cause de la gouvernementalité. Et justement à la science du gouvernement, à la capacité de mesurer d'élaborer des politiques publiques, parce que la gouvernementalité, c'est justement l'art de gouverner, suivant des paramètres précis, des instruments de mesure. Alors, là, si Foucault est en quelque sorte recyclé et repris, c'est bien pour montrer la filiation et pour asseoir donc, les prétentions de la gouvernance contemporaine. Alors, c'est bien de le signer, je sais de toute façon l'importance de Foucault et de son auteurs, surtout qui s'en réclament du côté anglo-américain. C'est très intéressant de voir l'influence de Foucault chez les auteurs américains, et qui, justement, dans les études sur la gouvernance, ils ont lu Foucault et le connaissent de façon souvent intime. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Foucault est lu et analysé par des auteurs américains en comparaison des auteurs français. Alors là, c'est extrêmement drôle et intéressant, parce que c'est pas la même lecture.
Là, en fait, il y a beaucoup mieux lu, finalement, de Michel Valéry.
Ah,
simplement,
je ne voudrais pas...
C'est un gouvernementaliste, en tout cas, là, la technique du gouvernement. Le Colin Bolden... Parce qu'effectivement, quand on lit les auteurs qu'on a nommés tout à l'heure, Morin et compagnie, c'est plutôt absent.
Oui, il est absent, c'est vrai. C'est un ouvrage très important, donc sur le droit de l'homme moderne des politiques publiques. Il est là dans mes travaux, c'est un repère essentiel. Parce que là, avec l'ouvrage de Morin, c'est qu'il est l'un des rares auteurs donc avoir apporté une contribution récente où là, la question des politiques publiques est arrivée avec le droit. Alors que dans le reste de la littérature savante, c'est plutôt la rupture, c'est plutôt l'évanouissement du droit dans les ouvrages où on aborde la question des politiques publiques. La littérature est immense sur les thématiques politiques publiques, et vous visez des tas d'auteurs américains, français, britanniques, qui n'ont pas du tout dit ton droit. Tout ça aucune pertinence de parler de droit par rapport à une question des politiques publiques. Alors ça, c'est assez fascinant de passer de l'autre côté du miroir.
C'est bien. Alors écoutez, je vais remercier la Kim. Pour la communication et puis pour la qualité des échanges aussi. Comme vous savez, il y a une tradition de poursuivre ces échanges autour d'un verre de vin et c'est ce que je vous invite à faire maintenant sur une 130 environnementale.